إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الله، فنتابع دروسنا في قراءة شرح رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ محمد ابن عمر بازمول حفظه الله. وما زلنا مع الناقض السابع، ألا وهو السحر. أخانا حسن، خلاص الله
يعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا.
قف أخي، توصل حفظ ياسين، حفظ نسيت راجع إن شاء الله. أسدين، واصل. ثالث:
الثالث: من لم يكفره شكيلا أو شك في كفره أو صحح مذهبه كفر. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس:
من يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكرت هذا النقل. قلت ماذا؟ قلت الرابع ولا قلت الثالث؟
الرابع.
هذا هو النقل الرابع. الرابع. إذن الخامس: الأول الشرك، الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط، الثالث من لم يكفر المشركين، طيب، الرابع من يعتقد، طيب، الخامس
من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر.
لم تراجع. قف محمد. السادس؟ لا، السادس حسن.
نعم، السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. ودليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر.
طيب بارك الله فيك. الحمد لله، فقد وصلنا إلى النوع الثامن من السحر، من الأنواع التي ذكرها فخر الدين الرازي في كتابه. يقول النوع الثامن من السحر: السعي بالنميمة وتضريب من وجوه خفيفة لطيفة، وذلك شائع في الناس. هذا هو الحق. قلت: النميمة على قسمين، تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين، فهذا حرام متفق عليه. فأما إذا كانت على وجه الإصلاح بين الناس وائتلاف كلمة المسلمين، كما جاء في الحديث: ليس بالكذاب من ينم خيرا، أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب ليس الكاذب، أو ليس الكاذب عفوا الذي يصلح بين الناس. حديث، نعم، وكذلك مسلم أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه. نعم، هذا معروف، ولفظه يعني لفظ مسلم عن ابن شهاب أن حميدة ابن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته. إذن أمه أم كلثوم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. طيب، ففرق بينهما، أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفراء، فهذا أمر مطلوب، كما جاء في الحديث: الحرب خدعة أو خدعة. طيب، كما أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيار، يقول وكذلك مسلم في كتاب الجهاد والسيار، باب جواز الخداع في الحرب، ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. طيب، donc on est arrivé aujourd'hui à la huitième forme de sorcellerie, ou plutôt de sihr. L'une des choses qui peut entrer dans l'appellation sihr en arabe, dans la langue arabe. Et donc la dernière, la huitième et dernière chose, il dit, c'est sa'yu bin namima, les efforts que la personne fournit dans ce qu'on appelle an-namima. An-namima. En français, on peut traduire par le colportage. D'accord? An-namima, hiya naqlu al-kalami bayna an-nas. Naqlu al-kalam bayna an-nas. Li qasd al-ifsad. Li qasd al-ifsad. Tayyib. Wa iqa' al-adawa wal-baghd baynahum. Donc an-namima, qu'est-ce que c'est? Le colportage. Eh bien, c'est le fait de colporter les paroles de certaines personnes à d'autres personnes. D'accord? Transmettre des paroles. Tu vas voir un tel, tu lui dis: un tel a dit cela sur toi. Puis tu vas voir l'autre personne et tu lui dis: un tel a dit cela sur toi. Dans le but de semer la haine entre eux. Dans le but de détruire les liens entre les gens. D'accord? et de semer la haine et la discorde. C'est ça le namimi.
Des paroles fausses ou...
Il n'y a pas de taqiyyid, que ce soit faux ou vrai. Vous voyez, même si c'est vrai, donc l'intention de transmettre les paroles de l'un à l'autre, le but justement de semer la haine entre eux, ça rentre dans la namima, dans le colportage. D'accord? Si c'est un mensonge, c'est pire. C'est le buhtan plus namima. Ou à tadrib. Donc tadrib, c'est ça. C'est semer l'animosité entre les gens. Mais d'une manière qui n'est pas apparente. Taïb, les gens ne savent pas. À la limite, ils ne savent même pas que tu en es la cause. Taïb, ça vient d'un coup comme ça. Ils ne savent même pas que que la personne est la cause de cette dissension. Donc c'est une chose qui est faite de manière secrète, cachée, voyez, imperceptible. C'est pour ça que ça rentre dans le terme sihr ici, d'accord? Parce qu'on a vu que sihr dans la langue arabe, yani kullu ma latufa wa khafiya sababu. Toutes les choses dont les causes sont imperceptibles et inconnues, d'accord? Sauf bien sûr de ceux qui connaissent ce qu'ils font, qui savent ce qu'ils font. Quoi qu'il en soit, donc ici, an-namima, d'accord, le colportage, il dit le shaykh, c'est une chose qui est répandue, propagée dans la société. Mais il faut savoir que an-namima, il dit ici, an-namima est de deux sortes. On a l'an-namima, bien sûr, qui est fait dans l'objectif de semer, donc comme on a dit, la haine, d'accord, la division entre les gens, de séparer et d'éloigner les cœurs, les croyants, les uns des autres. Vous voyez? Dans cette forme de namima, il n'y a aucun doute qu'elle est interdite. Il y a unanimité dessus. D'accord? Consensus sur l'interdiction du colportage dans ce but-là. Maintenant, il dit le shaykh, si cela est fait dans un objectif d'arrangement ou de réconciliation entre les gens, entre deux personnes par exemple, ou dans le but de lier les cœurs des croyants, d'accord? Tu vas voir un tel, tu lui dis, un tel a dit du bien de toi. Il m'a dit qu'il t'aimait bien, qu'il aimait bien rester avec toi et que tu étais quelqu'un de confiance, etc. Puis tu vas voir la deuxième personne et tu lui dis la même chose. Un tel m'a dit sur toi que du bien, machallah et tout. Même si ce n'est pas vrai. Même si ce n'est pas vrai, Yannick, tu l'as fait dans le but de les réconcilier ou de réparer les liens qui ont peut-être été détériorés. D'ailleurs, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, laysa bil kadhabi man yanimu khayran. N'est pas un menteur celui qui propage le bien. C'est pas un menteur. Voyez? Bien sûr, à condition que ça n'engendre pas un mal derrière. Donc ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et la version de Muslim rapportée par Umm Kulthum bint Uqba qui a dit qu'elle a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « N'est pas un menteur celui qui réconcilie entre les gens. » الَّذِي يُصْلِحْ بَيْنَ النَّاسِ qui réconcilie, qui arrange les liens et les rapports yani, entre les gens. « فَيَنْمِي خَيْرًا et donc il propage, il diffuse le bien ou il dit le bien. وَهَكَذَا طيب. Donc ça c'est permis. Alhamdulillah. Donc là, on voit qu'il y a une différence entre rapporter les paroles des gens dans le but de semer la haine et la discorde, et à l'inverse, propager des paroles dans le but de, au contraire, réconcilier les gens, etc. Même si ce n'est pas vrai. Même si ce n'est pas vrai, c'est une bonne action, à condition que ça n'engendre pas un mal derrière, à qui que ce soit. Non. Aou yakounou. Ou alors également c'est permis en situation de guerre, afin de combattre et de diviser l'adversaire. C'est permis aussi de faire preuve de ruse. Hein, de ruse, de tromperie, guillemets, de piège en temps de guerre. C'est permis également. Ça y est. Comme cela est venu dans le hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-harbu khada'a. La guerre, c'est une ruse. La guerre, c'est une ruse. C'est un piège. Et dans la version de Muslim, il dit la même chose. Donc, Al-harbu khada'a. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire que tu as le droit, même en temps de guerre, d'annuler, par exemple, qu'on appelle ça, quand tu fais la trêve. L'armistice, ou quand tu as décidé avec l'ennemi que tu as arrêté de faire la guerre, le combat, et que, voilà. Voilà. Et dans ce cas-là, tu n'as pas le droit, bien sûr, de mentir. Dire c'est bon, on arrête la guerre, puis d'un coup tu reviens, tu. Non, ça, tu n'as pas le droit. C'est interdit. Le musulman, il respecte ses engagements. Taïeb. Mais la ruse, les pièges, etc., tu peux le faire. Ça, tu peux le faire, comme on va le voir ici dans l'exemple rapporté par Ibn Kathir. Yaqul, wa kama fa'ala Nu'aym ibn Mas'ud. Nu'aym ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة أي بني قريظة قبيلة يهودية والأحزاب يعني كفار قريش طيب وجاء إلى هؤلاء فنما إليهم عن هؤلاء كلاما ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئا آخر ثم لأما بين ذلك فتناكرت النفوس وافترقت وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة النافذة والله المستعان. Donc pour finir l'exemple ici, comme quoi tu as le droit de propager des choses qui sont fausses, d'accord, en temps de conflit, en temps de guerre, afin de semer la division chez l'ennemi. Comme l'a fait Nu'aym ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. D'accord, à ne pas confondre avec Abdullah. Nu'aym ibn Mas'ud. Lorsque, à la base, les Ahzab, donc les Ahzab, c'était les ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, la tribu de Quraysh, la tribu de Intel, la tribu de Intel, qui s'étaient alliés donc, pour combattre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans. On les appelait les Ahzab. D'accord? Et il s'était allié à la base aussi avec des tribus yahoudis, juives, notamment Banu Qurayza. Banu Qurayza. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Nu'aym ibn Mas'ud? Il a rusé. Il a dit, je vais les diviser, comme ça ils seront plus faibles. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir l'Ahzab, donc les Mushrikoun. D'accord? Le peuple, les descendants de Quraysh, à leur tête Abu Sufyan, ça y est, à l'époque. Puis il est parti voir les Yahoudis, les Yahoudis, et il leur a dit des paroles, yani, afin de semer la haine entre les deux. Donc d'abord il est parti voir Abu Sufyan et les siens, et il leur a dit comme quoi les Yahoudis veulent de vous ceci et cela, veulent de vous yani, des garants, yani, en laissant partir vos enfants chez eux. Vous voyez? Puis il est parti voir Yahoud et leur a dit, les Arabes ont dit ceci et cela sur vous. Vous voyez? Alors que ce n'était pas vrai. Il a fait juste ça pour semer la division dans leur rang. Et ça a marché. Et ça a marché, yani, ils se sont divisés, puis il y a eu cette séparation entre eux par la suite. Donc, ce qui est seules les personnes qui ont une clairvoyance et une perspicacité telle que la sienne peuvent arriver à faire ce genre de ruse. Hein? Notamment pour séparer, pour diviser les ennemis, ou également pour réconcilier les frères, hein, les musulmans. Yani, tu as le droit de faire ça aussi. Vous voyez? Et pour ça, il faut un minimum de perspicacité, alhamdoulilah. ثم قال الرازي فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه. قلت، أي ابن كثير، قلت إنما أدخل كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها، لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه. ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، كما أخرجه البخاري. ولفظه عن زيد بن أسلم قال: سمعت ابن عمر يقول: جاء رجلان من المشرق فخطبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. Donc il dit Ar-Razi, donc ceci en conclusion, donc les huit catégories de sihr qu'on a vues font partie donc des choses qui peuvent entrer dans cette dénomination qui est sihr en arabe, et on a vu un peu l'explication de chaque catégorie. Il dit l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, Ar-Razi a introduit beaucoup parmi ces choses-là, donc, dans la catégorie al-sihr. D'accord? Dans la catégorie al-sihr. Tout simplement à cause de, comme il a dit, la ta'fati madarikiha. Le fait que leur technique n'est pas quelque chose qui est visible. D'accord? La méthode utilisée dans ces formes de sihr, que ce soit celle-là ou les autres, parmi les huit, yani c'est des choses qui sont imperceptibles au commun des mortels, yani chez les gens de la masse. Taïeb, comme on a vu, les techniques qu'utilisent par exemple les magiciens, entre guillemets, seuls les gens vraiment qui sont experts dans ce domaine-là les connaissent, ces techniques-là. Alors que nous, on ne connaît pas, yani vraiment les détails et comment ça marche. C'est pour ça que ça rentre dans cette appellation-là qui est al-sihr, d'accord, la ta'fati madarikiha, le fait que ce soit des causes qui sont imperceptibles chez les gens ordinaires, d'accord, parce qu'encore une fois, al-sihr, c'est quoi dans la langue arabe? Eh bien, ça représente tous ceux dont les causes sont imperceptibles, d'accord. C'est pour cela que il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par al-Bukhari. Il a dit, lorsque deux hommes étaient venus le voir, يقول, Ibn Omar, جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ. Deux hommes étaient venus le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Al-Mashriq. Donc Al-Mashriq, c'est l'Est à la base. D'accord? Al-Mashriq, c'est l'Est. Le Maghreb, c'est l'Ouest. Mais là, bien sûr, c'est Al-Mashriq, c'est-à-dire Mashriq Al-Medina. L'Est de Médine. Pas l'Est, yani. Pour imaginer l'Est, l'Asie, ou peut-être plus près que l'Asie, yani. Hein, des pays qui sont à l'Est, yani de Médine ou de l'Hijaz. Mais non, là c'est l'Est de Médine. D'accord? Ils étaient venus voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car il y avait une dispute entre eux. D'accord? Une dispute, ils sont venus avec chacun leur tribu, etc. Et chacun, ils ont commencé à argumenter devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'une grande éloquence. Avec une grande éloquence, etc. Chacun défendait sa position et tout. Et lorsque le prophète, il a entendu l'éloquence et la rhétorique de ces deux personnes-là, il a dit « Inna min al-bayan la sihr » Certes, fait partie de l'éloquence, yani, fait partie de l'éloquence, la sorcellerie. Yani, la sorcellerie est une forme d'éloquence. D'accord? Ou l'inverse. L'éloquence est une forme de sorcellerie. Voyez? Donc là, ça ne veut pas dire que celui qui est éloquent, yani, c'est une mauvaise personne ou il a commis un péché. Ça ne veut pas dire ça. Ça sera mauvais quand la personne va utiliser l'éloquence pour rendre le faux vrai. D'accord? Comme font yani beaucoup de parmi al-mubtadi'a, les innovateurs, ou même les kuffars, lorsqu'ils vont appeler à leur à leur fausseté, à leur mensonge, eh bien, malgré ça, ils vont attirer beaucoup de personnes juste à travers la façon de parler, l'éloquence. On le voit à travers les politiciens, même s'ils appellent à quelque chose, ou même si les gens savent qu'ils ont fait telle ou telle chose, peut-être ils ont eu des affaires judiciaires, ils se sont fait attraper la main dans le sac, ils se sont fait attraper, hein? Comme quoi, ils ont eu des rapports avec des femmes, même des viols des fois. Après, tu les vois à la télé, ils reviennent normal à la télé. hein? Et juste en parlant, en utilisant des phrases et des expressions, ils arrivent quand même à rassurer les gens, subhanallah, et à continuer à se faire à être suivis, etc. Pourquoi? Parce que justement, l'éloquence, la façon de parler, de bien s'exprimer, c'est une forme de sihr. Et ça a une répercussion, des répercussions sur la psychologie des gens. Et non. Maintenant, si la personne, elle est éloquente et qu'elle utilise dans le bien, de là. Sans que ça ne rentre pas dans l'exagération aussi. Par exemple, tu as des imams, il se peut qu'ils, vu qu'ils sont très très forts en langue arabe, vont venir du Mo'a et vont utiliser des mots que personne ne comprend. Des mots en arabe que personne ne comprend. Ça, c'est une forme d'éloquence qui n'est pas louable. C'est pas louable, ça. La personne doit se mettre au niveau de son auditoire. Bien sûr, elle, faut qu'elle soit éloquente, etc. Mais elle ne doit pas yani, utiliser des expressions ou des mots que les gens ne comprennent pas. Anzilu an-nasa manazilahum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comportez-vous avec les gens selon leur niveau. Que ce soit le niveau de richesse, le niveau yani, de rang social, mais aussi le niveau de compréhension. Tu ne vas pas parler à quelqu'un qui débute dans la religion, tu ne vas pas utiliser des mots trop difficiles ou trop compliqués, tu ne vas pas rentrer trop dans les détails. Donc ici, l'éloquence qui est blâmable, c'est celle qui est soit trop exagérée, qui va faire que les gens ne comprennent pas, ou celle qui va être faite pour justement faire passer un mensonge ou égarer les gens. Al-Muhim, ça rentre aussi dans une forme de sihr, l'éloquence, le bayan. ثم يقول وسمي السحور لكونه يقع خفيا آخر الليل. Puis parmi justement les liens entre السحر et certains mots tels que السحور. Donc السحور c'est qu'est-ce que c'est les frères? Hein? Vas-y continue.
C'est le
fier. Le fier, voilà. Le
sahour ou le suhour? Le suhour, c'est le fier. Le sahour, c'est ce que tu manges au noir. C'est ça?
Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit.
C'est ça ce que tu as
dit? J'ai dit le sahour.
Ah, sahour.
Donc, c'est quoi le sahour?
C'est le fier.
Je suis content de dire. Yacine, c'est quoi le sahour? Le sahour,
c'est la nourriture qu'on mange juste avant.
Voilà, c'est voilà. Tu l'avais dit en bien. Tu as dit le suhour, c'est le fial. Il y a le suhour. Il y a le ma. Ma yutanawal. Donc, c'est comme pour al-wudu et al-wadu. Al-wudu, c'est l'acte. L'acte de faire les ablutions. Et al-wadu, c'est l'eau avec laquelle tu fais les ablutions. Pareil pour al-suhour, al-suhour. Al-suhour, l'acte de manger à la fin de la nuit. Et al-sahour, la nourriture que tu manges à ce moment-là. D'accord? Donc al-sahour, vous voyez que al-sahour, on a les trois lettres de sihr. Sin, ha et ra. Eh bien, ça s'appelle comme ça, yani, parce que c'est une nourriture qui se prend à la fin de la nuit, hein, comme si tu étais submergé et caché par l'obscurité. Donc il y a cette notion de... d'imperceptibilité, yani, le fait que tu sois caché, etc. etc. ثم يقول والسحر الرئة السحر الرئة وهي محل الغذاء وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة انتفخ سحرك انتفخ سحرك أي انتفخت رئته من الخوف. طيب puis il dit السحر ça peut vouloir dire aussi الرئة c'est le poumon الرئة hein الرئة c'est le poumon ils ont traduit le poumon طيب. Après comment ils ont traduit la phrase juste après
la place de l'alimentation.
La place de l'alimentation. C'est ça que je ne comprends pas en fait. Il dit le rien, mais il dit c'est le poumon. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il dit le rien, l'endroit de la nourriture. La place de l'alimentation.
Peut-être l'alimentation en oxygène.
En oxygène, le rida. Le rida, c'est plus le shurb ou le ta'am. Le rida, c'est pas le hawa. Donc, Allahu alam. En tout cas, yani, voilà, ça se trouve à ce niveau-là. Mais le rida, c'est les poumons. Il n'y a pas d'autre, c'est les poumons. Le rida, c'est les poumons, c'est ce qui sert à respirer. Le nafas. Donc, le rida, il a été appelé aussi un sahar. Par rapport justement à ça aussi, le fait que ses poumons, ils sont cachés. D'accord ? Comment ? Le colon, les intestins, tout ça.
C'est qui caché derrière le... Comment ? Parce que c'est lui qui se gonfle, donc c'est lui qui en voit.
Alors, il y a quoi le saharou, nuqtatan ar-ri'a. Taïeb, al-muhim, voilà, parce qu'il a été appelé comme ça, par rapport au fait que ils sont cachés, et que... Le fait que ces liens hein, avec les autres organes du corps ainsi que la peau, ils sont cachés et dissimulés. C'est pour ça qu'il dit qala Abu Jahl. Abu Jahl, il a dit le jour de Badr, il a dit Utba, il lui a dit intafakha sahruk. Ton sahr a gonflé. Ton sahar a gonflé, tes poumons ils ont gonflé. D'accord ? C'est-à-dire, tes poumons ils ont gonflé à cause de la peur. À cause de la peur. D'accord ? On imagine, à cause de la peur, la personne a du mal à respirer, elle est soufflée, parce que ses poumons ils ont gonflé justement à cause de la peur. Allahu a'lam. Wa qalat Aisha, radiallahu anha, tawfiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bayna sahri wa nahri. بين السحر ونحر نعم أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أي وكذلك مسلم في كتاب فضائل الصحابة ولفظ البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقي قالت دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته فمضغته ثم سننته به في ديسي la parole de Aïcha qui a dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est mort entre mon sahr justement mon sahr et mon nahr. Donc le nahr chez la personne, c'est le haut de la poitrine, c'est là. D'accord ? C'est l'endroit, hein, les gorges, ou l'endroit où le collier de la femme, d'accord ? C'est le nahr ici. Et le sahr, d'accord ? Comme on a dit, c'est la poitrine, les poumons, quoi. Donc elle dit, le prophète, il est mort entre cet endroit-là et cet endroit-là. Donc il était posé sur elle, en fait, à cet endroit. Et le hadith... rapporté par Al-Bukhari Muslim, elle dit à Aïcha, le prophète il est mort dans ma maison, wa fi nawbati. Nawba, c'est lorsque tu as plusieurs femmes, d'accord, et que, bien sûr, tu dois passer un certain nombre de nuits chez l'une, puis chez la deuxième, puis chez la troisième, d'accord? Donc si tu as passé par exemple 3 nuits chez l'une, tu dois passer 3 nuits aussi chez l'autre. Tu dois être juste et équitable dans ce qu'on appelle ici donc un nawba. C'était le tour donc de Aïcha. Donc il est mort ce jour-là, c'était le tour de Aïcha. Et chez elle, donc, entre Sahri ou Nahri, donc entre mes poumons, ma poitrine et le haut ou mon cou, yani. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a réuni entre ma salive et sa salive. Il a réuni entre ma salive et sa salive. Puis elle a dit, Dakhala Abdurrahman. C'est qui Abdurrahman ici? Hein? Abu Bakr? Là, Ibnuhu. Ibn Abi Bakr. C'est le fils d'Abi Bakr. Donc le frère de Aïcha. Le frère de Aïcha. D'accord? Abdurrahman, il est entré avec un siwak. Et le prophète était trop faible pour pouvoir l'utiliser lui-même. Et donc elle a dit quoi? Je l'ai mâché. Puis je l'ai utilisé sur les dents du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Voilà. وقال تعالى سحروا أعين الناس أي أخفوا عنهم عملهم والله أعلم يا الله يجي تبارك وتعالى دا sa parole dans le sens rapproché سحروا أعين الناس سحروا donc ils ont fait preuve de sihr sur les yeux des gens c'est-à-dire سحروا il a le sens de أخفوا ils ont dissimulé ils ont caché ce qu'il faisait aux yeux des gens. Les gens ne voyaient pas ce qu'il faisait. D'accord? Saharu bima'na akhfaw, cacher, dissimuler. Rendre imperceptible ce que tu fais. D'accord? Wallahu ta'ala. Thumma yaqul faslun. Wa qad dhakara al-wazir Abu al-Mudhaffar Yahya ibn Hubayra ibn Muhammad ibn Hubayra في كتابه الإشراف على مذاهب الأشراف بابا في السحر فقال أجمعوا أي العلماء أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة هذا فيه نظر بالنسبة إلى أبي حنيفة يقول أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال لا حقيقة له عنده واختلفوا في من يتعلم السحر ويستعمله. Donc ici il dit, le cheikh, Fidaullah, Al-Waziru, donc un des ministres musulmans de cette époque-là, donc lui il a vécu 6e siècle, 6e siècle na'am, de l'Égypte. S'appelle Abu al-Mudhaffar Yahya ibn Hubayra. D'accord? C'était un ministre, mais c'était en même temps un savant. C'était un grand savant de l'islam. Il a écrit dans son livre Al-Ishrafu ala madahib al-Ashraf. D'accord? Donc, ici, l'exposé, ou dans ce livre-là, il a exposé les madahib des grands imams de la Sunna, l'Ashraf, le noble. Et dans son chapitre concernant al-sihr, la sorcellerie, il a dit que les imams étaient tous unanimes pour dire que al-sihr est réel et qu'il a des répercussions réelles. D'accord? Sauf Abu Hanifa. Sauf Abu Hanifa. Qui a dit comme quoi le sihr n'a pas de réelle répercussion. D'ailleurs, pour lui. Et ils ont divergé aussi sur celui qui apprend la magie ou la sorcellerie et celui qui l'utilise. Ils ont divergé aussi sur le jugement de cela. Le jugement de celui qui apprend la magie et le jugement sur celui qui utilise la magie. D'accord? Mais, par rapport à Abu Hanifa, hein, les ulama qui ont vérifié les paroles hein, qu'il aurait dites par rapport au sihr sont arrivés à la conclusion que cette allégation à son sujet n'est pas vraie. Hein, le fait qu'il ait dit que sihr n'est pas quelque chose d'authentique. Alors pourquoi il aurait yani, rendu mécréant celui qui utilise le sihr? Si tu dis que le sihr, ce n'est pas authentique, pourquoi tu rends mécréant la personne qui le fait? Ce n'est pas logique. Et deuxièmement, certains disent aussi que il a rendu mécréant celui qui utilise le sihr, yani, qui est fait donc avec les shayatin, hein, etc., etc., dans lesquels il y a du shirk, du kufr. Mais concernant la croyance comme quoi le sorcier peut transformer les objets, comme on avait parlé. Vous vous rappelez, hein, un sorcier ne peut pas, il est incapable de transformer un bout de bois en serpent, en un vrai serpent par exemple, ou le transformer un être humain en animal, ou le transformer une pierre en or, ou de l'or en pierre. Ça, c'est impossible, même pour le sorcier le plus expérimenté, hein, du monde. Il n'y a que Allah qui peut faire ça. Tabarak wa ta'ala. Donc certains disent qu'Abu Hanifa, il a nié cette chose-là, ce qui est le fait que le sorcier transforme les choses véritablement. Ça, bien sûr que c'est faux. Le sorcier est incapable de faire ça. Mais quant à sihr, hein, qui peut rendre malade quelqu'un, par exemple, qui peut rendre malade une personne, taïeb, qui peut séparer entre deux personnes ou réunir entre deux personnes. Ça, c'est un sihr qui existe. Et ça, Abu Hanifa ne l'a pas nié. D'accord? Alhamdulillah. Faqal Abu Hanifa wa Malik wa Ahmed yakfuru bidhalik. Donc Abu Hanifa, l'imam Malik et l'imam Ahmed, rahimahumullah, ils ont dit que celui qui apprend la sorcellerie ou qui l'utilise, il a mécru. Voyez, yakfur. ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. Parmi ceux qui ont suivi le madhhab de l'imam Abi Hanifa, parmi les savants, certains disent que celui qui apprend la magie dans le but de s'en protéger, il apprend la magie dans le but, pas de l'utiliser, mais de s'en préserver et de s'en éloigner. Certains disent que lui, il n'a pas mécru. D'accord? Il n'a pas mécru. Et que celui qu'il apprend par contre en ayant la croyance que c'est permis ou en ayant la croyance que la magie lui est bénéfique ou qu'il croit qu'on peut utiliser les shayatines, hein, et qu'ils pourront faire tout ce qu'ils veulent que les shayatines fassent, eh bien celui-là c'est un kafir. D'accord? Donc certains disent celui qui l'apprend pour s'en préserver, pour s'en éloigner, il n'a pas mécru. Alors que celui qui l'apprend parce qu'il croit que c'est permis, il croit que c'est une chose qui est bien et qu'il peut utiliser les shayatin comme il le veut, هذا يكفر. الله أعلم. وقال الشافعي رحمه الله إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك صف لنا سحرك فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقد أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. طيب يجي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى que si la personne apprend la sorcellerie, eh bien nous lui posons une question. Nous lui disons: décris-nous ta magie. Décris-la nous. Si il la décrit et fait comprendre que la magie qu'il a utilisée est une magie qui est de l'ordre du kufr, de la mécréance, comme celle, hein, qui était utilisée par les gens de Babylone afin de, hein, soi-disant, de se rapprocher des sept astres et que planètes. Et que ces planètes-là pouvaient faire, yani, et leur donner ce qu'ils désiraient, ce qu'ils demandaient. Donc celui qui, par contre, décrit ce type de magie-là, c'est un kafir. C'est un kafir. Mais s'il décrit une forme de magie qui n'est pas de l'ordre du kufr, taïeb, s'il croit que c'est permis, c'est un kafir aussi. D'accord? Même si c'est une sorcellerie qui n'est pas de l'ordre du kufr, mais qui croit que c'est permis de faire ça et autorisé, eh bien, c'est aussi un kafir. Wallahu a'lam. ثم يقول ابن هبيرة رضي الله عنه أو رحمه وهل يقتل هل يقتل بمجرد فعله واستعماله فقال مالك وأحمد نعم يقتل وقال شافعي وأبو حنيفة لا فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم إلا الشافعي إذا قتل يقتل حدا لا ردة حدا إلا الشافعي فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصا طيب Donc il dit ici, Ibn Hubayra, rahimahullah, donc est-ce que celui qui a utilisé de la sorcellerie, si le gouverneur musulman yani, l'attrape, hein, est-ce qu'il doit être exécuté ou pas? Il dit l'imam Malik ainsi que Ahmed, ils disent oui, il doit être exécuté. Al-Shafi'i et Abu Hanifa, ils disent non. Donc là, la divergence entre, donc on a l'avis qui est de l'exécuter, qui est celui de Malik et d'Ahmed, et l'avis qui est de ne pas l'exécuter, qui est celui de Shafi'i et Abu Hanifa. Non. Quant à celui qui a tué quelqu'un par sa magie et par sa sorcellerie, il est arrivé à assassiner une personne. D'accord? Comme on a dit, tu peux rendre malade une personne. Tu peux même l'amener jusqu'à la mort. Bi'ithnillah. Azza wa jal. Dans ce cas-là, Imam Malik, ainsi que Shafi'i, ainsi que Ahmed, ils disent oui. Dans ce cas-là, il doit être exécuté. D'accord? Donc, dans le premier cas, quelqu'un qui a utilisé de la magie, mais qui n'a tué personne. D'accord? Lui, on a vu, Malik et Ahmed disent oui, Abu Hanifa, Shafi'i disent non. Mais s'il a tué quelqu'un, du coup, là, Shafi'i, il dit oui. Il va donc dans le sens de Malik et de Ahmed. Et Abu Hanifa, non. Il dit Abu Hanifa, Rahimahullah, il ne doit pas être exécuté tant que cela ne se répète pas. Donc s'il a fait qu'une seule fois, on ne le tue pas. Mais s'il le fait plusieurs fois, hein, à répétition, dans ce cas-là, il doit être exécuté. Ou alors le fait qu'il l'ait avoué par rapport à une personne précise, particulière. D'accord? D'accord, Mohamed? Comment il a dit, c'est ça? Taïm. Et s'il donc il est exécuté par le gouverneur, d'accord, gouverneur musulman, voyez, eh bien, il sera exécuté haddan, c'est-à-dire comme celui qui se fait exécuter, l'assassin des musulmans, s'il se fait attraper, yani, il peut se faire exécuter haddan, ça veut dire que après son exécution, on va le laver et on va prier sur lui et on va l'enterrer. Sauf Al-Shafi'i. Donc Al-Shafi'i, il dit non. فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصا. كما إذا تخرجوا لا Et le début de la phrase, c'est quoi?
S'il est exécuté, il est exécuté par sentence légale chez eux, à l'exception de Shafi'i.
À l'exception de Shafi'i.
En fait, je crois que c'est la même chose, c'est
bien par
le premier, c'est par le
gouverneur. Non, c'est pas ça. Il y a une différence là, entre le had, la sanction légale. Et entre le qisas. Parce qu'il a fait dire que le hal est dit qisas. Mais non, parce que regarde. Ou il a coûté là. Il a coûté. Faïna ou yuqtal hattan. Indahum. Illa Shafi'i. Ou ma d'accord Shafi'i. Qala Shafi'i. Yuqtal qisasan. Le qisas c'est justement non lors du talion, mais ça c'est bain al muslimin bain al mu'min al qisas. C'est pour ça que ici j'ai mais oui
c'est pas très clair
l'accession de Shafi et qu'est-ce qu'il est exécuté alors que la situation est telle quelle application de la loi du talion. Parce que Sahir, on a dit que Abu Hanifa, Malik, Ahmed, ils disent qu'il a commis un acte de kufr. D'accord? Il a commis un acte de kufr qui fait sortir de l'islam. Donc s'il reste sur ça jusqu'à son exécution, il ne sera ni lavé, ni on priera sur lui. D'accord? Taïeb. Par contre, s'il se repent, sincèrement, et qu'il rentre dans l'islam, dans ce cas-là, même s'il est tué, naam, on priera sur lui, et on l'enterrera, etc. Donc c'est ce qu'il faut surtout que l'on comprenne, c'est ça. D'accord? Parce que les ulama, ils ont divergé donc sur ça. Sur est-ce que l'exécution du sorcier qui a tué des gens, est-ce que c'est une exécution qui est de l'ordre de la peine légale, al-had, ou de l'ordre de al-qisas? C'est-à-dire, donc al-had, ça peut être par exemple le fornicateur. Le fornicateur qui a déjà été marié, donc qui a fait un acte d'adultère, qui a avoué, d'accord, de zina, eh bien on va l'exécuter, haddan, donc c'est une peine légale, d'accord, dans l'islam. Mais on a aussi ce qu'on appelle al-qisas. Al-qisas, c'est une peine qui est appliquée quand la personne, elle a assassiné quelqu'un. Et que la famille, yani, décide qu'on l'exécute. D'accord? Et qu'elle ne veut pas de quelque chose en échange. Non, ça rentre dans le qisas. Mais la finalité, c'est la même. La finalité, c'est la mort. Et comme on a dit, s'il est mort sur le kufr, on ne va pas prier sur lui, on ne va pas l'enterrer chez les musulmans. S'il est mort sur le kufr, ça c'est sûr. Par contre, s'il est mort après le tauba, etc., etc., non. Allahu a'lam. Taïr,
les trois savants, c'est ce qu'ils disent.
C'est un had. Chez Malik, Ahmed et Abu Hanifa, c'est un had. Mais chez Shafi'i, c'est qisas. Voilà, khalas. قال وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته نعم هناك وصلنا إذا تاب الساحر هل تقبل توبته فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهما لا تقبل وقال شافعي وأحمد في الرواية الأخرى تقبل Donc, lorsque Sahir, il se repent, il se fait attraper, après il se repent. Est-ce que son repentir, il a accepté? Il dit l'imam Malik, ainsi que Abu Hanifa et Ahmed, la version qui est connue chez eux, eh bien, il n'est pas accepté. Le repentir, il n'est pas accepté. Ça veut dire que si on l'exécute comme ça, yani, il est exécuté en tant qu'apostat, en tant que murtid. Mais l'imam Shafi'i et une des versions de Ahmed, l'autre version de Ahmed, ils disent Tuqbal. Son repentir, il a accepté. D'accord? Son repentir, il a accepté. Amma sahiru ahli al-kitab fa'inda Abi Hanifa annahu yuqtal kama yuqtalu sahiru al-muslim. Quant au sorcier qui fait partie des gens du livre, eh bien, l'imam Abu Hanifa, il est d'avis qu'il doit être exécuté comme est exécuté le sorcier musulman. D'accord? Le sorcier musulman. Non. Ou parmi les musulmans. Voyez? وقال مالك وشافعي وأحمد لا يقتل يعني لقصة لبيد ابن أعصم واختلفوا في المسلمات الساحرة. Concernant encore une fois le sorcier des gens du livre, l'imam Malik, Shafi'i et Ahmed, ils disent qu'il n'est pas exécuté. On ne l'exécute pas par rapport notamment à l'histoire de Labid ibn Asam. Ils ont divergé sur la sorcière parmi les musulmans. D'accord? As-sahira min al-muslimin ou al-muslimat. Fa'inda Abi Hanifa la tuqtal. ولكن تحبس لا تقتل ولكن تحبس وقال الثلاثة حكمها حكم الرجل والله تعالى أعلم. Concernant maintenant la femme يعني, qui a fait usage de la sorcellerie parmi les musulmans. Il dit à Abu Hanifa qu'elle n'est pas exécutée, mais elle est emprisonnée. On doit l'emprisonner et non exécuter. Alors que les trois autres, Ahmed, Malik et Shafi'i, ils disent que c'est le même jugement que pour l'homme. D'accord? Ça ne change pas, que ce soit un homme ou une femme, c'est la même chose. Allahu Ta'ala, A'lam. إن شاء الله نكتفي بهذا. أعتقد أننا سنحاول تقييم ما بقي من هذه الأنيلاتيف للإسلام في الدرس التالي بإذن الله. إن شاء الله تعالى. لا يبقى شيء من الكتاب. لا يبقى شيء. الشيخ بيان ديتايي لي بخومي نواقض. Après, il est allé un peu plus vite pour les derniers. Alhamdulillah. Après, commencer à réfléchir, Inch'Allah, sur le prochain livre. On fera après celui-là. Vous voyez? Tab Tawhid. Tab Tawhid, Inch'Allah, ce serait bien. Même on verra, Inch'Allah. Al-ilmu indallah. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين.